Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Qu'est-il arrivé au chanteur Kenji Girac? Il dit s'être lui-même blessé par balle ce matin à Biscarrosse dans les Landes, mais sa version comporte des incohérences. Il est hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger. Les détails avec Stéphane Place dans un instant, et on va y revenir après le journal avec le rédacteur en chef culture de Paris Match, Benjamin Locoge. Il y a désormais non pas deux, mais trois jeunes suspects dans l'agression mortelle contre Philippe à Grande Sainte. Un garçon de 15 ans a été arrêté, c'est le cousin des deux autres. Face à la multiplication des agressions entre jeunes, Gabriel Attal propose des internats éducatifs, comme celui qu'il a visité à Nice. Est-ce une bonne idée ou pas? On va en parler avec l'enseignante Lisa Kamanirsig. Donnez-nous votre avis au 01 80 20 39 21. Dans ce journal, Jean-Luc Mélenchon va prendre la parole tout à l'heure à Sciences Po Paris. La démission du chef du renseignement militaire israélien, analyse à suivre de Frédéric Ancel. Et puis, on fabrique encore des Citroën dans une usine russe. On va vous expliquer comment c'est possible. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors, pas de hausse des températures avant ce week-end. Bon, demain, temps frais, de la neige sur les massifs montagneux. Un ciel variable avec parfois de beaux moments ensoleillés pour débuter la journée, mais quelques pluies aussi au programme, et on fera le point à la fin du journal.
À tout à l'heure. C'est donc une affaire bien étrange, la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Il est ce soir hospitalisé près de Bordeaux, ses jours ne sont pas en danger. Stéphane Place, vous êtes devant cet hôpital à Pessac. Que sait-on sur ce qui s'est passé tôt ce matin dans une aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse?
Alors soyons clairs, il y a peu d'informations sur les investigations en cours depuis ce matin, depuis que Kenji Girac a été découvert grièvement blessé par balle vers 5h sur cette aire d'accueil pour les gens du voyage, non loin de l'aérodrome de Biscarrosse. Pris en charge par les secours, le chanteur de 27 ans a été transporté ici à l'hôpital Olévêque à Pessac, où je me trouve, pendant que sur le terrain, dans le périmètre bouclé par les gendarmes, les enquêteurs recueillent indices et témoignages pour reconstituer le déroulement des faits. Une vingtaine de militaires mobilisés, de la gendarmerie de Parentis-en-Born, de la cellule d'identification criminelle et de la section de recherche de Pau. Ils ont retrouvé une arme de poing tout à l'heure, un Colt caché dans un buisson, mais il n'y avait pas de chargeur ni dans ce pistolet ni à proximité. Et ce soir demeurent de nombreuses questions sur les circonstances de ce tir qui a atteint au niveau du thorax l'artiste connu pour avoir remporté The Voice. D'abord, il y a des prélèvements, des analyses de police technique et scientifique qui vont être effectuées pour s'assurer que l'arme découverte a bien un lien avec les faits. Et puis, il s'agit d'établir le scénario précis. Est-ce un accident de manipulation qui est à l'origine de ce tir? Est-ce la victime qui avait le pistolet dans les mains, ou un tiers, en clair une autre personne qui serait intervenue? Autant d'interrogations auxquelles doit répondre l'enquête diligentée par le parquet de Mont-de-Marsan.
Stéphane Place, devant l'hôpital de Pessac pour Europe 1. On va revenir avec vous sur cette mystérieuse affaire et aussi avec le rédacteur en chef culture de Paris Match, Benjamin Locoge. Ce sera juste après ce journal. Un rebondissement ce soir dans l'enquête sur l'agression mortelle du jeune Philippe à Grande Sainte. Un troisième suspect a été arrêté. Il est en garde à vue pour assassinat. C'est le cousin des deux autres meurtriers présumés. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de Grande Sainte.
Oui, très exactement, le cousin de l'un des deux agresseurs de la semaine dernière. Il s'agit en fait d'un garçon de 15 ans qui lui-même a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est-à-dire quelques heures seulement après la marche blanche qui avait été organisée ici à Grande-Synthe. Agression dans ce qui ressemblait à une expédition punitive, une sorte de vengeance montée contre un proche, donc, de l'un des assassins présumés de Philippe Kopmann. Et bien ce soir, ce garçon passe du statut de victime à celui de suspect parce que Selon la procureure de la République de Dunkerque, c'est bien en tant que mise en cause dans l'agression sauvage de Philippe qu'il a été placé en garde à vue à sa sortie d'hôpital. Alors, il faut dire les choses, on n'en sait pas beaucoup plus ce soir sur son degré d'implication dans le passage à tabac qui a coûté la vie mardi dernier au jeune éducateur de Grande-Synthe. Mais ce qu'il y a de troublant dans ce rebondissement, c'est que cela peut laisser penser qu'ici, à Grande-Synthe, certains étaient au courant ou en tout cas convaincus de la responsabilité de cet adolescent dans la mort de Philippe. Le fait est qu'à l'heure où l'on parle, ceux qui ont voulu se faire justice eux-mêmes d'une certaine façon n'ont toujours pas été interpellés.
Lionel Gougelot, en direct de Grande-Synthe, dans le Nord. Son prénom est aussi l'un des symboles de la violence des mineurs. Samara, 13 ans, violemment agressée près de son collège de Montpellier avant les vacances de Pâques. Aujourd'hui, ce devait être la reprise des cours dans cet établissement, mais les enseignants se sont mis en grève. Ils voulaient dénoncer l'impact de cette affaire sur leur travail et sur l'image du collège. À propos de la violence des mineurs, le Premier ministre propose sa solution, le placement en internat. Gabriel Attal était à Nice avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, pour inaugurer un internat éducatif destiné aux élèves décrocheurs, un établissement où, pendant 2 semaines de vacances scolaires, une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans seront encadrés par des éducateurs spécialisés. Alexandre Chauveau, vous êtes à Nice. L'objectif, c'est d'empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance.
Oui, avec un encadrement strict opéré par des réservistes de la gendarmerie, réveil à 7h, levée du drapeau et des activités conçues pour valoriser la vie en société. L'internat apparaît pour beaucoup comme un moyen de ne pas quitter le droit chemin.
C'est soit je vais au bled les 2 mois de vacances, ou sinon je vais les 2 semaines ici. Et du coup, je préférais choisir ici.
Tous sont inscrits ici sur la base du volontariat des parents qui ont parfois du mal à trouver les bons remèdes.
J'espère à la fin de ce séjour qu'ils puissent en sortir avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de respect.
Face aux adolescents, Gabriel Attal joue les encadrants.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone ?
Sur le téléphone.
Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Fier de voir dans cet internat une illustration du choc d'autorité qu'il appelle de ses voeux.
On va inciter davantage au placement de ces jeunes en internat pour leur donner un cadre, leur rappeler quelles sont les règles et les couper de mauvaises fréquentations.
Et en cas de réussite, l'expérimentation pourrait donc être généralisée à l'ensemble du pays.
Alexandre Chauveau à Nice pour Europe 1. Alors, coup de com' du Premier ministre, vraie solution pour couper les jeunes de leur milieu nocif. On va en parler à 19h30 avec la professeure des écoles Lisa Kamen-Nirsig. Elle est l'auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel. Interdit à Lille, Bordeaux et Rennes, voilà Jean-Luc Mélenchon. À Paris, le leader des Insoumis poursuit sa campagne européenne, qui ne tourne d'ailleurs qu'autour de la situation à Gaza. Ce soir, il doit prendre la parole dans les locaux de Sciences Po, Alexis de La Fontaine. Comment se fait-il que sa présence ait été interdite à plusieurs reprises et que là, à Paris, elle soit autorisée ?
Eh bien, les présidents de Lille ou Bordeaux jugeaient la venue de Jean-Luc Mélenchon trop dangereuse dans leurs universités, trop de risques de troubles à l'ordre public, et les préfectures avaient demandé l'interdiction de ces réunions, alors que Sciences Po Paris estime qu'il n'y a aucun risque de troubles ce soir. Avec cette conférence du leader insoumis, il faut dire que l'endroit est très très bien gardé. J'ai aperçu plusieurs fourgons de police dans la rue et de nombreux vigiles pour filtrer les étudiants rue Saint-Guillaume à Paris. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a utilisé une petite ruse pour pouvoir tenir sa réunion et pour contourner les règles en période de campagne électorale. À Lille, l'insoumis venait pour un meeting sur la Palestine, alors que ce soir, il est officiellement présent pour une conférence littéraire sur son livre « Faites mieux », lors de laquelle il parlera évidemment de Gaza.
Alexis de La Fontaine, devant les locaux de Sciences Po Paris. Un ouf de soulagement pour ceux qui ont prévu de prendre le train pour les ponts du mois de mai. La menace d'une grève est écartée. Les syndicats ont signé un accord avec la direction sur les fins de carrière des cheminots. En revanche, attention, si vous devez prendre l'avion ce jeudi, les négociations des contrôleurs aériens ont échoué. Ils annoncent une mobilisation record. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, la démission du chef du renseignement militaire israélien et le procès de Donald Trump qui vient de commencer.
Europe 1 soir. Et il est temps de parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom.
Oui, je suis au magasin Weldom de Carrière-sur-Seine, en région parisienne, avec Jean-Marc. Alors Jean-Marc, vous êtes client de ce magasin, vous y trouvez toujours ce dont vous avez besoin, mais aussi du conseil peut-être.
Alors effectivement, moi chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose ou d'un service, je vais voir un employé. Et à chaque fois, j'ai eu une réponse très précise et l'article qui allait bien par rapport à mon besoin. Que ce soit pour le jardinage, que ce soit pour le bricolage de tous les jours. En fait, c'est un petit magasin, mais je trouve qu'il est très bien achalandé et on trouve vraiment chaussures à son pied, comme on dit. Très professionnel, en fait.
Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, Jean-Marc ?
Ah, un peu de tout là. Là, je leur recoupais des poteaux. Donc, j'ai une scie sabre et je leur ai acheté des lames de scie parce que les miennes sont émoussées. Et j'ai acheté des poteaux. C'est juste à côté. Je dépense moins d'essence. Ça me rend bien service. Très pratique.
Merci Jean-Marc. À bientôt.
Et à bientôt. Et merci.
Merci. Et on se retrouve lundi prochain pour continuer à parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2+1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, vous ne connaissez pas son nom, mais il occupe un très haut poste en Israël. Le général Aharon Aliva est le chef du renseignement militaire. Aujourd'hui, il annonce sa démission un peu plus de 6 mois après l'attaque du 7 octobre, Chloé Lagadou.
Oui, dans une lettre publiée par l'armée, le chef du renseignement militaire dit « assumer sa responsabilité dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier ». Une attaque surprise que le général Aliva et ses équipes n'ont pas su prévenir. Cette défaillance dans les renseignements est pointée du doigt par les partis d'opposition. Quelques jours seulement après l'attaque sanglante du Hamas, le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement israélien avait d'ailleurs reconnu des erreurs commises par les services de renseignement. Le 7 octobre, 1170 personnes sont mortes, essentiellement des civils. Le général Aliva explique dans sa lettre de démission qu'il porte avec lui ce jour noir. Jour après jour, nuit après nuit, il confie qu'il portera pour toujours cette terrible douleur. Après 38 ans de carrière dans l'armée, le haut gradé prendra donc sa retraite une fois son successeur nommé. Il s'agit de la première personnalité politique ou militaire à démissionner depuis l'échec du 7 octobre.
Et on en reparle largement à 19h45 avec le spécialiste en géopolitique Frédéric Ancel. En ce soir de Pâques juive, les familles d'otages demandent de laisser une chaise vide autour de la table lors du repas rituel du Seder, un geste symbolique pour ne pas oublier tous ceux qui sont retenus à Gaza depuis le 7 octobre. Moins d'une centaine seraient encore vivants. Donald Trump devant le tribunal de New York. C'est le coup d'envoi d'un procès historique pour l'ancien président américain. Il plaide non coupable sur les 34 chefs d'accusation de faux en écriture destinés à acheter discrètement le silence d'une actrice de film X avec laquelle il aurait eu une liaison, et cela avant la présidentielle de 2016. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce procès s'est ouvert sur des plaidoiries préliminaires de l'accusation et de la défense.
Le procureur a d'emblée donné le ton en déclarant « c'est une fraude électorale pure et simple ». Il a la charge de démontrer que les faux en écriture répertoriés dans les chefs d'accusation font partie de ce qu'il a appelé une conspiration que Donald Trump aurait personnellement dirigée pour étouffer non seulement les confidences de Stormy Daniels, mais aussi plusieurs autres révélations sur sa vie amoureuse. Selon la défense qui s'est exprimée ensuite, tout cela est une extrapolation à partir d'une simple manœuvre comptable. L'accusation n'a pas de preuve que Donald Trump ait commis une infraction pénale et il n'y a rien d'illégal dans le fait de vouloir influencer une élection. À son arrivée, Donald Trump avait retourné l'accusation d'interférence électorale en disant qu'il en était lui-même victime puisque ce procès l'empêche de se rendre en Pennsylvanie ou en Floride où pendant ce temps, Joe Biden fait campagne. Mais même un procès historique doit tenir compte du quotidien et le programme de cette première journée a été modifié pour permettre à l'un des jurés saisi d'une rage de dents d'aller chez le dentiste.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Direction maintenant la Russie où il se passe de drôles de choses dans l'usine Citroën, en théorie fermée en raison des sanctions internationales. Dans cette usine Stellantis, à 200 km de Moscou, on continue pourtant d'assembler des voitures, probablement avec l'aide d'un constructeur chinois, voilà qui nécessite quelques explications, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est un exemple concret de ce qu'il se passe quand on perd le contrôle d'une usine, me dit-on, du côté de Citroën, qui avait abandonné cette usine de Kalouga il y a 2 ans. Le site qui produisait 125 000 véhicules par an et employait 2700 salariés était petit à petit devenu désert. Mais voilà, depuis quelques semaines, la production semble avoir repris, sans aucun lien avec la marque du groupe Stellantis. Pourtant, les automobilistes russes peuvent précommander un C5 Aircross pour le récupérer à partir du mois prochain, parce que d'anciens salariés semblent avoir été réembauchés. On ne sait pas par qui précisément. Ils reçoivent des kits pour procéder à l'assemblage des véhicules. Citroën n'accuse personne directement, mais tous les regards se tournent vers le constructeur chinois Dongfeng, qui, dans le cadre d'un partenariat, produit en Chine des Peugeot 3008 et des C5 Aircross. Voilà comment la géopolitique s'invite dans le secteur automobile et comment une entente russo-chinoise semble permettre de vendre des Citroën sans aucune intervention de Citroën.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Cette histoire belge qui ressemble à un canular. Et pourtant, nous ne sommes pas en 1er avril à Bruges. Un homme de 40 ans était poursuivi pour conduite en état d'ivresse. Il a été relaxé pour cas de force majeure. La force majeure, c'est le syndrome très rare dont il souffre, l'auto-fermentation alcoolique, c'est-à-dire que son estomac fabrique naturellement de l'éthanol quand il mange du pain, des pommes de terre ou des haricots. Ce syndrome, je vous rassure, ne concernerait qu'une vingtaine de personnes dans le monde. Place au marché financier, toujours sobre, Claire Lemaître de Boursier.com, et une toute petite hausse pour démarrer la semaine à Paris.
Oui, un gain de 0,2%, 8040 points pour le CAC 40, une séance calme à Paris, mais la saison des résultats d'entreprise va s'accélérer et 21 sociétés du CAC 40 vont publier leurs performances financières cette semaine. En attendant, c'est Téléperformance qui termine en tête de l'indice, hausse de plus de 3%, et de son côté, Edenred reprend 2,3% après une séance compliquée vendredi. Quatre anciens dirigeants de sa branche italienne ont été mis en examen, notamment pour fraude. Ailleurs, en Europe, très belle séance pour Londres qui gagne 1,6%, plus 0,6% pour Francfort, plus 0,1% pour Amsterdam, plus 0,2% à Paris pour le CAC 40. On est à 8040 points.
Merci Claire Lemaître. À vous Marlène Duret pour la météo. Et c'est une journée qui va débuter sous un ciel contrasté.
Contrasté au niveau de la couleur du ciel aussi. Oui. Donc au niveau de la couleur du ciel, c'est vrai, beaucoup de soleil dans de nombreuses régions demain matin. Un soleil devenant moins radieux en journée, c'est vrai. Je vais peut-être plutôt zoomer sur les régions qui se réveilleront sous un ciel gris. Alors le long des côtes de la Manche, vers la Bretagne, au sud de la Garonne aussi, c'est une perturbation qui va donner des pluies plutôt faibles. De la neige sur les Pyrénées centrales des 500 mètres. Amélioration prévue dans l'après-midi, sauf du Cotentin à la Bretagne et à proximité des Pyrénées. On va rester sous un ciel gris avec quelques pluies. Autre zone de temps nuageux, plus instable avec des averses entre le Nivernais, l'est du Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence, sans oublier l'est de la Franche-Comté, et la neige qui va apparaître à basse altitude, 300 ou 400 mètres sur le massif central, 500 sur les Préalpes, 700 à 900 mètres dans les Alpes et 1000 mètres en Corse. Alors là encore, c'est pas mal de neige, jusqu'à 10 cm. Nous sommes au printemps. Et puis dans l'après-midi aussi, on notera un petit risque orageux entre la Côte d'Azur et la Corse, et le vent Mistral et Tramontane qui vont se renforcer.
Et je précise d'ailleurs que vous avez un gros manteau oui. sur les épaules, parce que même ici, il fait très froid. Et comme la nuit dernière, il va falloir prévoir des gelées en pleine.
Et oui, on garde ses gants parce qu'effectivement, entre moins 2 et 2 degrés attendus demain matin, entre la Normandie et la Picardie, et en continuant vers le centre-val de Loire, l'Auvergne Rhône-Alpes, surtout le quart nord-est aussi. Du côté de la Bretagne et de la façade atlantique, même près de la Méditerranée, on est plus sur du 3 à 8 degrés. Donc on reste sous les 10 degrés. Et demain après-midi, température en baisse au sud. Au nord, ça ne bouge pas beaucoup. Comptez 8 degrés à Rodez, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Grenoble et à Reims, 11 à Colmar, Auxerre, Limoges, 12 degrés à Paris ainsi qu'à Valence, 13 à Saint-Rémy-de-Provence ainsi qu'à Rennes, 14 à Montauban, Bordeaux et jusqu'à 16 à Montpellier.
Merci Marlène. Il est 19h18 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h dans un instant. Retour sur l'affaire Kenji Girac. Le mystère plane sur les conditions de sa blessure par balle ce matin dans les Landes.
Europe 1 soir.
C'était bien, ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LL des 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur quatre aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Alors, ça envoie du steak ?
Et même du steak de porc, patron. En ce moment, les 5 steaks de porc sont à 3,49€ les 400 grammes au lieu de 4,49€, moins 22%.
70 centimes le steak de porc !
Et origine France, hein ?
Oh, les cochons !
Ah oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 8,73€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Care Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Care Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h21 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. C'est donc un étonnant mystère qui entoure la blessure par balle du chanteur à succès Kenji Girac. On rappelle que son pronostic vital n'est pas engagé, mais il a quand même été grièvement blessé. Nous sommes toujours avec Stéphane Place en direct de Bordeaux. Vous restez avec nous. Nous sommes également avec Benjamin Lecoche. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes rédacteur en chef culture à Paris Match. Vous connaissez bien la carrière de Kenji Girac. Quand vous avez entendu ce qui s'était passé, vous avez été surpris. Vous croyez à cette thèse d'un accident avec un pistolet acheté en brocante ?
Oui, c'est assez surprenant effectivement. On se demande tous un petit peu qu'est-ce qui ferait que Kenji Girac à 5h du matin serait en train de bricoler une arme achetée en brocante la veille, surtout un Colt 45 comme ce qui a été annoncé. Donc on a un peu, tout le monde a un peu du mal à croire à cette version-là. Est-ce que c'est la réalité ? Seul lui pourra nous le dire.
C'est quel type de personnalité Kenji Girac ?
Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement agréable, qui prend le temps de bien faire les choses. On sent quand il est avec la presse et quand il est avec les médias qu'il est bienveillant, qu'il est très content de ce qui lui arrive. Après, on sait qu'il a un entourage très compliqué. On avait fait un papier sur lui, nous, en 2021, à l'époque où il avait eu son premier enfant. Et on sentait dans ce papier que, il avait eu des soucis familiaux avec ses cousins. Que le nom de Kenji Girac était quelque chose un peu dur à porter pour lui parce qu'il avait beaucoup de pression dans son entourage pour assurer...
Qu'est-ce que vous voulez dire par un entourage très compliqué ?
Bah justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'il a, voilà, il a tout un tas de gens autour de lui qui profitent financièrement de lui, lui disent qu'il faut qu'il paye pour tout le monde. Et ça avait déjà créé des premières tensions à cette époque-là. Même s'il veut pas s'étendre dessus, il dit que la communauté des gens du voyage, c'est un monde à part et que les gens ne comprennent pas forcément. On avait perçu dès 2021 qu'il y avait déjà quelques petits soucis de ce côté-là. Mais c'est quelqu'un de discret qui a toujours voulu rassurer les gens et qui veut toujours montrer le bon côté des choses.
Et qui est resté très proche de ses racines.
Totalement, il vit encore dans le monde des gitans, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il a un domicile fixe, mais il a aussi une caravane. Mmh. C'est quelque chose de vraiment majeur pour lui et il ne veut pas se couper de ces racines-là. Il sait combien ce monde est compliqué, combien ce monde a ses codes et il ne veut pas s'en affranchir, mais c'est tout à son honneur d'ailleurs.
Il est assez secret d'ailleurs sur sa vie privée, vous disiez que vous l'aviez interviewé, mais ça devait être compliqué.
Non, mais même pour voilà, pour connaître le prénom de sa fille, ça a été des heures de palabres et de négociations. Il avait tellement peur d'en dire trop. Enfin, c'était très c'est très marrant d'ailleurs cette jeune génération qui a peur de dire les choses. Quand on se souvient que Johnny Hallyday montrait son enfant à peine né, lui c'était un secret de polichinelle, mais il fallait surtout l'évoquer le moins possible. Enfin. C'était assez hallucinant de voir combien il était en contrôle par rapport à ça.
Bah, il est en contrôle et là, il se retrouve au cœur de l'actualité. On ne parle plus que de ça. J'imagine que tout le monde fait des hypothèses. Ça doit le mettre très mal à l'aise, on l'imagine.
Alors, j'espère pour lui qu'il a ni son téléphone ni les réseaux sociaux en ce moment et qu'il se concentre sur sa santé. Mais c'est vrai qu'effectivement, toute cette forme de silence et d'omerta médiatique fait que personne ne croit à cette histoire de revolver trouvé en brocante et qu'il y aura toujours une espèce de suspicion autour de cette histoire. Mais peut-être va-t-il s'exprimer.
Vous pensez que cette blessure peut avoir un impact sur sa carrière ?
J'en sais strictement rien. Après, est-ce que ça peut lui inspirer des chansons ? J'espère pas.
En tout cas, il va déjà annuler ses prochains concerts. Ça, c'est...
Alors, c'était pas vraiment des concerts. Il avait des participations dans des événements. L'événement de Marseille, prévu en fin de semaine, dans le cadre des Jeux Olympiques, fait qu'effectivement, il pourra pas être présent. Mais c'est pas une tournée, proprement dit, qui tombe à l'eau. C'est juste des événements ponctuels.
Est-ce que vous pensez que... cette exposition, finalement, mais est-ce que vous pensez que quelque part il risque, peut-être qu'il veut protéger, comme il est très proche de sa famille, de son clan, est-ce qu'éventuellement il chercherait à protéger quelqu'un ?
Je pense qu'il cherche d'abord à protéger les siens et qu'il va, voilà, quand il dit que c'est entièrement de sa faute. C'est quelqu'un qui, encore une fois, pense avant tout à la famille et qui ne veut surtout pas mettre les siens dans des situations compliquées. Il a pu, grâce à son succès, mettre sa famille à l'abri du besoin. Et donc voilà, ça va être compliqué pour lui après de faire comme si de rien n'était.
On va prendre également Stéphane Place, qui est à Bordeaux, qui suit cette affaire pour Europe 1. Vous le disiez dans le journal, c'est très difficile ce soir de savoir ce qui s'est vraiment passé et il y a beaucoup d'incohérences quand même.
Il y a des questions, il y a énormément d'interrogations sur le déroulement des faits et il y a peu de réponses dans la mesure où, vous le savez, l'enquête a été diligentée par le parquet de Mont-de-Marsan puisque les faits ont eu lieu à Biscarrosse, c'est dans le département des Landes, et le parquet ce soir n'a pas apporté de précision, n'a pas communiqué du tout. Et donc, il y a très peu de choses qui filtrent sur l'avancée des investigations à l'heure où l'on se parle. On sait simplement, mais c'est un élément évidemment important, qu'une arme a été retrouvée dans la journée grâce aux investigations menées par les gendarmes, qui ont mis le paquet d'ailleurs dès le début de cette histoire. Et cette arme était dans un buisson à la lisière de cette aire d'accueil des gens du voyage, où s'est donc déroulé ce tir qui a atteint en pleine poitrine Kenji Girac. Mais au-delà de ça, on ne sait effectivement pas grand-chose sur ce qui a pu être recueilli en termes de témoignages, d'auditions au cours de cette journée, ni même d'éléments de police technique et scientifique. Tout cela est en cours et on sent bien qu'il y a beaucoup de prudence sur la communication. Encore une fois, rien n'a filtré officiellement aujourd'hui de toute cette journée, alors que, compte tenu de la popularité du chanteur et de la pression donc médiatique, on aurait pu imaginer qu'avant la fin de ce lundi, eh bien, on apporte, on confirme, on infirme un certain nombre d'éléments. Pour l'instant, non, rien d'officiel. Et vraisemblablement, il va falloir attendre demain pour en savoir un peu plus. Ici, à l'hôpital de Pessac, dans cet hôpital au Lévesque où est soigné le chanteur, ça appartient au CHU de Bordeaux, hein, c'est une des entités du CHU de Bordeaux. Il y a des journalistes qui ont fait le pied de grue, évidemment, tout au long de cette journée. On a pu croiser des proches, l'entourage, vraisemblablement, de Kenji Girac. Mais il n'y a absolument rien, pas une phrase, pas une déclaration.
Merci Stéphane Place, en direct de Bordeaux. Dernière question, Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture à Paris Match. On sait que Kenji Girac, c'est un peu l'idole des très jeunes, de beaucoup d'enfants. Est-ce que vous pensez que ce coup de feu, cette blessure, ça peut avoir un impact sur son image ?
Non, je pense pas que ce genre de drame ait d'impact. C'est l'idole des familles. Kenji, c'est plus vraiment que les enfants. Il y a vraiment un truc populaire. J'espère que ça ne lui nuira pas plus que ça. Franchement, je crois pas.
Merci beaucoup Benjamin Locoge d'avoir été en direct sur Europe 1 et on souhaite évidemment un prompt rétablissement à Kenji Girac dont les jours ne sont pas en danger. Merci à vous tous d'être sur Europe 1. Il est pour l'instant 19h29, soyons précis. Vous restez avec nous parce qu'on va se retrouver juste après la pause pour parler des internats éducatifs voulus par Gabriel Attal.
Europe 1 soir. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé...
Oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1, le journal permanent.
19h32 sur Europe 1, les circonstances restent floues autour de la blessure par balle de Kenji Girac. Le chanteur a reçu un tir au thorax tôt ce matin à Biscarrosse. Il se dit victime d'un accident domestique avec une arme achetée dans une brocante. Elle a été retrouvée dans un fossé par les enquêteurs près de l'aire de passage des gens du voyage où se trouvait Kenji Girac. Dans l'enquête sur la mort de Philippe Copeman à Grande-Synthe, le mineur agressé ce week-end a été arrêté. Il est âgé de 15 ans, c'est le cousin d'un des deux mis en examen pour assassinat dans cette affaire. Gabriel Attal à Nice, après son discours à Viry-Châtillon sur la violence des mineurs, le Premier ministre était au lycée du Parc Impérial pour illustrer le volet prévention de son plan. Il a lancé l'expérimentation d'un internat éducatif pour les élèves en décrochage. Il s'agit de cours de soutien scolaire et d'éducation physique pendant les vacances et il s'agit là d'élèves volontaires. Et puis en Israël, le chef du renseignement militaire démissionne. Selon l'armée israélienne, le général Aaron Aliva assume sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque du Hamas le 7 octobre. Il s'agit du premier responsable israélien à démissionner depuis l'attaque menée par le mouvement terroriste palestinien.
19h-20h, Europe 1 soir.
On parle énormément de la violence entre jeunes ces derniers jours. Samara, tabassée à Montpellier, Chemseddine, tuée à Viry-Châtillon, Philippe, mort sous les coups à Grande-Synthe. Gabriel Attal était donc à Nice aujourd'hui pour mettre un coup de projecteur sur l'internat éducatif ouvert aux jeunes décrocheurs. C'était dans un lycée de la ville. Bonsoir Lisa Carmen-Hirsig.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes professeur des écoles, auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel. Alors parlons de l'expérience qui est menée à Nice. Une vingtaine de jeunes à la dérive qui passent 2 semaines à faire toutes sortes d'activités. Réveil à 7h, lever du drapeau, activités comme des ateliers estime de soi ou bien sortie dans le camp de déportation des 1000 à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation ?
Alors, sur le principe, isoler des enfants violents ou des jeunes adolescents violents de leur milieu habituel n'est pas une mauvaise idée. On sait que c'est important de les couper des mauvaises influences. Sur le principe, j'ai pas de problème. Mais pourquoi faire ? C'est ça la question. Parce qu'en fait, ces jeunes gens n'ont sans doute pas besoin d'une couche supérieure, une couche, on va dire, de plus, de catéchisme républicain. Or, c'est bien ça qu'on s'apprête à faire. Moi, j'ai bien écouté ce que disait le responsable de l'association qui organise, je crois, une partie du programme. Donc, c'est une association qui s'appelle PAGE. Mmh. Donc, ce monsieur disait que, voilà, ils allaient organiser beaucoup de séances de sport. On va faire de la culture, on va leur donner des séances d'éducation civique. Moi, je pense que ces jeunes, le point commun de ces jeunes gens, quand je les écoute parler, c'est l'indigence de leur vocabulaire, leur incapacité à s'exprimer, à mettre des mots sur leur frustration, à mettre des mots sur leur haine, sur leur violence, sur tout ce qu'ils ressentent.
Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous avez l'air de dire qu'ils sont irrécupérables, en fait.
Pas du tout. Alors, ce que je dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il faut leur donner, c'est pas une énième leçon d'éducation civique, c'est la langue, leur langue, la langue française et l'histoire de leur pays. C'est les instruire, c'est leur donner aussi, pourquoi pas, un métier. Une raison d'être, de se sentir digne et fier. Je pense qu'on se fourvoie quand on leur propose une nouvelle fois de les évangéliser avec les valeurs républicaines. Ils en ont rien à faire des valeurs républicaines, visiblement. Et c'est pas à 13, 15 ou 16 ans que tout à coup ils vont se dire j'adore la France ou c'est à mon avis c'est pas ça qu'il faut faire et je ne pense pas qu'il soit irrécupérable. Je pense que c'est une question d'instruction et je pense que ce qu'il faut donner à l'école c'est l'instruction, c'est pas un catéchisme, c'est pas des valeurs républicaines qu'on serine. Vit la République, ça se vit par la littérature, ça se vit par l'histoire, par la géographie de son pays.
On peut être que d'accord avec ce que vous dites, évidemment. Là on parle pour l'instant d'expérience, c'est 15 jours, c'est des vacances, c'est comme un stage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être en les isolant d'un milieu nocif, de très mauvaise fréquentation, de peut-être pas de tous les ramener dans le droit chemin, mais en tout cas de leur montrer qu'il y a une vie ailleurs. Il y a aussi le fait qu'on leur enlève leur portable, sauf une heure par jour. Peut-être que ça peut déclencher une étincelle, vous n'y croyez pas ?
Moi, je serais ravie que ça fonctionne. Je me dis juste que si Monsieur Attal communique avant, c'est que lui-même n'y croit pas trop. Parce que si j'avais été à sa place, si j'avais été vraiment confiante dans mon dispositif, je n'aurais rien dit avant et j'aurais communiqué après sur la réussite de ce dispositif. C'est quelqu'un qui fait ça très souvent. Il est resté très peu de temps à l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale. Il a beaucoup communiqué. Si vous regardez ce qui a été vraiment réalisé après ce passage éclair au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas grand-chose. C'est une habitude de communiquer comme ça rapidement. Et d'ailleurs, il dit lui-même je passe à l'acte dès que j'ai parlé. Mais en réalité, quels sont les actes là ? Il a recruté 20 élèves. Alors, on dit que c'est sur la base du volontariat. Si vous écoutez les gamins concernés, visiblement, ils sont pas tous volontaires.
C'est plutôt le volontariat vidéos, ils ont pas de leurs parents, on dirait.
C'est les volontariats des parents. Et je comprends les parents, parce que les parents se voient offrir une espèce de colonie de vacances aux frais du contribuable dans un très bel endroit, si j'ai bien compris. Ça a l'air très joli. On leur enlève leurs enfants j'imagine qu'il y a un enfant par famille. On leur enlève leur enfant pendant une quinzaine de jours. Donc, c'est des enfants qui sont difficiles à tenir à la maison. Donc, on les prend. On les isole, tout ça aux frais du contribuable, évidemment, et tout ça pour leur offrir encore une fois quelque chose qui, à mon avis, n'aura pas d'effet sur leur comportement. Je serais ravie d'avoir tort, honnêtement. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Allons interroger ces élèves dans 15 jours, on va dire hors du champ ministériel, quand le ministre n'est pas juste à côté. Quand ils sont pas cernés par des adultes qui les ont coachés pendant 15 jours. Et voyons ce qu'ils disent vraiment et voyons comment ils se comportent vraiment. Alors, j'ai peu d'espoir.
Lisa Kamenetsi.
Je pense qu'en fait, on peut pas s'économiser aujourd'hui une vraie refonte des programmes scolaires et une vraie, un vrai examen de la formation des enseignants.
Alors, on va voir justement, on va voir ce que dit un de vos collègues, puisque Laurent, qui nous appelle du Lot-et-Garonne, est prof de maths. Et on aimerait aussi avoir son opinion. Vous, en tout cas, on vous a senti très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Merci. En fait, merci de nous appeler.
Vous voyez, je ne suis plus en Lot-et-Garonne, je suis en vacances en Corse, mais en fait, ce n'est pas grave.
Bon, ce n'est pas grave, on entend votre petit accent du Lot-et-Garonne en tout cas.
Ah, ça vous fait plaisir.
Mais j'adore, j'ai travaillé dans le Lot-et-Garonne, vous voyez. dites-moi, vous, quand vous entendez cette histoire d'internat, vous n'y croyez pas non plus, alors, j'ai bien compris.
Moi, je crois qu'il faudrait que le Premier ministre, ex-ministre de l'Éducation, s'occupe surtout des élèves qui sont... exclus des établissements lorsqu'ils sont passés devant un conseil de discipline. Ça, c'est le vrai problème, parce qu'on se refile des patates chaudes d'un établissement à l'autre et on ne traite pas les problèmes. Donc, il faudrait peut-être créer des maisons de correction pour ces jeunes-là ou des établissements avec discipline renforcée pour traiter ces problèmes. Et de plus en plus, on évite de faire des conseils de discipline parce que, justement, il y a ce problème de se refiler, entre guillemets, les élèves à problème d'un établissement à l'autre.
Et vous ne pensez pas... Je comprends votre histoire de patates chaudes, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais là, l'idée de les mettre, de les isoler dans des sortes de stages en internat... Ah oui, alors le problème, c'est qu'après, il faut bien qu'ils reviennent à un moment ou à un autre.
Voilà, donc en fait, c'est des vacances, comme disait ma collègue, c'est des vacances tout frais payées, quoi. Voilà. C'est pour faire croire qu'on s'occupe du problème et on ne traite pas la racine. La vraie chose serait, en fait, de revoir complètement le système, notamment le collège unique, de prévoir des filières qui motivent ces élèves-là, pas forcément des filières traditionnelles, avec des stages, créer un collège des métiers, par exemple, qui pourrait davantage motiver ces élèves, qui éviterait qu'ils posent des problèmes de discipline. Parce qu'en fait, ces élèves-là n'ont plus rien à faire dans le système et on sait pas trop quoi en faire.
C'est assez terrible de vous entendre aussi bien vous. Merci de votre appel. J'entends bien.
Vous savez, j'ai 59 ans, je commence à avoir pratiqué le système éducatif, l'éducation nationale en particulier.
J'entends ce que vous dites. Lisa Kamen-Nirsik, quand vous entendez ce que dit Laurent, qui dit qu'il a fait le tour largement de ce métier et qu'il est si pessimiste comme vous l'êtes aussi, on se dit, mais elle est où la solution ?
Pour moi, la solution est dans un réalisme quand même. Il faut, et monsieur a raison, c'est du bon sens ce qu'il dit. On ne peut pas se refiler, comme il dit, les patates chaudes d'une école à l'autre. Il faut leur trouver une autre solution, soit effectivement un centre éducatif fermé, soit pour ceux qui sont encore, on va dire, sauvables, leur offrir une voie professionnelle qui leur rende leur dignité, qui leur donne une opportunité professionnelle. Après, moi, je pense que, vous voyez, il y a 54% des Français qui scolariseraient volontiers leurs enfants dans l'école privée. Pourquoi ? Parce qu'une école privée peut exclure des élèves. Mais vraiment, c'est-à-dire que les écoles privées ne se refilent pas les élèves les unes les autres. Mmh. Et donc, il faut donner cette possibilité aux écoles publiques. Il faut que les écoles publiques aient la même liberté que les écoles privées. Sans ça, les gens vont se ruer dans le privé. Et comme le privé sous contrat est plafonné à 20% du public, les gens finissent par se ruer vers le privé hors contrat. Vous voyez aujourd'hui un grand nombre de gens qui se saignent aux quatre veines, y compris dans des familles modestes, pour scolariser leurs enfants dans des écoles privées. Parce que dans les écoles privées, on peut faire respecter le règlement. Dans les écoles privées, on peut virer un élève qui se comporte mal.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ces élèves alors ? C'est ça le problème.
Moi, je pense qu'il faut trier. C'est-à-dire que parmi ces enfants-là, ils sont pas tous les mêmes. Il n'y a pas 100% de ces gamins qui sont irrécupérables. Maintenant, il y a sans doute parmi eux des élèves dont on peut pas faire grand-chose d'autre que, effectivement, de les interner un moment dans un centre spécifique dans lequel on va les redresser, ce qu'on appelait les maisons de redressement autrefois. Ça existait déjà. La violence des jeunes n'est pas un phénomène complètement nouveau. Des maisons de redressement, il y en a toujours eu. Des gamins qui se font harceler, il y en a plein la littérature. C'est là où le phénomène est nouveau, c'est la masse, la quantité de cas qui en plus sont très médiatisés, donc ça fait peur à tout le monde. Mais moi, je pense qu'on ne pourra pas s'économiser, encore une fois, la réflexion sur le contenu des programmes, qu'est-ce qu'on offre aux élèves, mais dès la maternelle, hein, parce que le fait de remplacer les savoirs par la pédagogie, ça c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Le fait de remplacer les savoirs par des idéologies de toutes sortes, si vous lisez les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est de l'écologie à toutes les sauces, de la lutte contre les inégalités. On demande aux élèves de s'engager pour le climat, contre les stéréotypes. On leur fait faire des quêtes pour les coupes menstruelles. Enfin, je vous passe les détails, hein, j'ai tout vu. Et à côté de ça, ils arrivent en sixième. Un quart des élèves de sixième ne savent pas lire couramment. Et on se félicite que aux journées de la citoyenneté, ou de la défense, pardon, aux journées de la défense, on se félicite que 78% des enfants, enfin des jeunes gens, puisqu'ils ont 18 ou 19 ans, comprennent un article de journal. Mais si je compte bien, s'il y a 78% des gens qui comprennent un article de journal, ça veut dire qu'il y en a 22% qui ne comprennent pas un article de journal. C'est énorme. Ça veut dire qu'un Français sur 5 qui sort du lycée ne comprend pas ce qu'il lit dans le journal. C'est fou. Donc il faut revoir les programmes, il faut recommencer à instruire les enfants de ce pays.
C'est vaste, vaste programme, hein, revoir les programmes et instruire les enfants de ce pays. Quel peut être le rôle des parents? Est-ce que finalement, il ne faut pas les responsabiliser encore davantage?
Sure. Mais on a, comment dire, on a enlevé aux parents le choix de l'école. On a enlevé aux parents le choix de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent en mettant en place une carte scolaire et en organisant le monopole financier de l'éducation nationale. Si vous voulez mettre vos enfants dans une école privée, il faut double payer. Vous payez vos impôts, puis vous payez l'école privée. Donc en gros, on a organisé le monopole de l'éducation nationale sur la scolarité des enfants. On a retiré aux parents le choix de la scolarité de leurs enfants, alors que normalement, c'est aux parents, ce sont les parents les premiers éducateurs de leurs enfants. Une fois qu'on leur a retiré ce choix, comment leur reprocher d'être déresponsabilisés? L'État a organisé la mainmise sur l'éducation et ensuite reproche aux parents de ne pas éduquer leurs enfants. Je pense qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans quand même qui est assez flagrante. Donc je pense qu'il faut rendre aux parents la liberté de scolariser leurs enfants là où ils le souhaitent, et en leur rendant la liberté, on leur rend la responsabilité entière, et après c'est à eux de choisir ce qu'ils font de leurs enfants, est-ce qu'ils les mettent dans telle ou telle école, pourquoi, est-ce qu'ils l'enlèvent de telle ou telle école et pour quelle raison. Et je pense qu'on peut pas d'un côté scolariser les enfants obligatoirement de 3 à 18 ans. Hein, maintenant, l'obligation de formation de l'État court jusqu'à 18 ans. On ne peut pas en même temps monopoliser l'éducation nationale avec un ministère qui capte l'ensemble des impôts dédiés à ça. Et de l'autre côté, demander aux parents de se montrer responsables. Il faut leur laisser la liberté et donc la responsabilité qui va avec.
Merci beaucoup, Lisa Kamen-Hirsig, d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci à notre auditeur Laurent. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles et auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel.
Europe 1 soir,
19h46,
19h20,
Hélène Zélani.
Oui, c'est bien moi, et j'ai un rendez-vous à vous rappeler tous les jours de 14h à 15h sur Europe 1. Au-delà de racontes, faits divers, affaires criminelles, portraits de personnalités, demain c'est une émission spéciale. Christophe va vous raconter des histoires de légistes tirées du livre du docteur Philippe Boxo, médecin légiste en Belgique. Mort à la ferme, le pendu pas pendu, c'est donc demain dans Au-delà de racontes à 14h sur Europe 1. Nous, dans un instant, on va parler de la démission du chef du renseignement militaire en Israël pour n'avoir pas pu prévenir l'attaque du 7 octobre. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown.
Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout.
Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LL des 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Europe 1 soir.
19h48 sur Europe 1, le chef du renseignement militaire israélien jette l'éponge. Le général Aaron Aliva a donc présenté sa démission aujourd'hui. Âgé de 56 ans, il évoque sa responsabilité de commandement dans l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 soir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Alors, d'abord, c'est le premier haut responsable israélien à démissionner depuis cette attaque il y a 6 mois. Qu'est-ce qui lui est reproché précisément ?
Alors, pour l'instant, officiellement rien, puisque par définition, la commission d'enquête qui se mettra sur pied n'est pas encore, ne prévaut pas encore, puisqu'on est en pleine guerre. Mais il est bien évident que sur une telle catastrophe, le chef des renseignements militaires est immédiatement sur la sellette. D'ailleurs, c'est ce qui s'était produit à deux reprises, enfin des démissions, s'était produit à deux reprises en 1973, début 1974, après la. Les premiers jours catastrophiques de la guerre de Kippour, c'était la fameuse commission à Granate qui s'était mise sur pied et qui avait établi des responsabilités. Et c'était allé très haut parce que à l'époque, la première ministre, hein, Golda Meir, avait finalement démissionné, ainsi que le ministre de la Défense et pourtant prestigieux, Moshe Dayan. Et puis ça s'est produit une deuxième fois, une vague de démission. C'était en 82 et 83, après la guerre du Liban et ses échecs et ses avanies. Et là, pour le coup, c'était sous le règne, en quelque sorte, de Menachem Begin. Donc là, j'ai envie de vous dire que le chef de l'AMAN, donc le renseignement militaire, il prend les devants. Hein, avant même d'être flétri par une commission d'enquête, bah, il décide de partir de son propre chef.
On ne lui a rien reproché, vous l'avez dit, mais il y a quand même des failles qui sont très claires et dont les familles des victimes et des otages se font écho très régulièrement. Il semble quand même qu'il n'ait pas réagi à temps et finalement que l'armée ait mis trop de temps à arriver. Enfin, il y a plein de points. Hein. Il y a le temps de réaction et puis il y a cet aspect-là et il y a l'aspect prévention aussi.
Absolument, vous avez raison, mais quand je dis qu'on lui reproche rien officiellement, voilà. Parce que pour l'instant, effectivement, on est hors commission d'enquête, mais il est bien évident qu'une fois qu'elle sera mise sur pied, elle rendra des conclusions qui, de toute façon, a posteriori, le stigmatiseront, donc, et pour des raisons que vous avez bien dites. Alors simplement, en Israël, l'opinion publique, et à juste titre, reproche pas tellement à l'armée, ou au chef de l'armée, ou au chef de renseignement, les erreurs, les retards et les avanies, mais reproche tout ça au Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'Israël est une authentique démocratie. Et fondamentalement, celui qui doit assumer, comme l'assumèrent d'ailleurs à l'époque, leurs responsabilités, je les ai cités, Golda Meir et Menachem Begin, c'est évidemment les Premiers ministres. D'autant plus que Netanyahou, pour le coup, était au pouvoir au moment où le pogrom du Hamas est intervenu le 7 octobre dernier. Il était au pouvoir, quasi sans discontinuer, depuis 14 ans. Autrement dit, c'est lui qui a donné l'impulsion principale des missions à confier au service de renseignement. Et en fait, il avait littéralement abandonné l'idée que le Hamas pouvait maintenir un très haut niveau à la fois de cruauté, de détermination et de capacité technique. Si vous ajoutez à ça la cerise technologique sur le gâteau, cette fameuse barrière à $1 milliard, eh bien, vous trouvez une responsabilité qui sera de toute façon écrasante, surtout sur le Premier ministre.
Alors, évidemment, il y a une très très forte responsabilité de Benjamin Netanyahou, mais il y a quand même des failles des services de renseignement, parce qu'ils sont accusés d'avoir mal interprété des signaux qui auraient dû les alerter, parce que le Hamas a préparé cette opération pendant des mois, peut-être même des années.
Absolument, pendant de nombreux mois, et le comble de cette histoire-là, le comble du tragique en quelque sorte, c'est que, vous savez, on est sur des territoires extrêmement petits, donc les plus proches habitants des kibbutz voisins de la barrière habitaient à 800-900 mètres hein, de la barrière, et immédiatement derrière cette barrière, eh bien, ils voyaient des combattants du Hamas s'entraîner,
et oui.
Mais pendant des mois. Et si vous voulez, donc il faisait remonter l'information, les soldats bien évidemment le voyaient aussi, mais ils considéraient que c'était une ruse du Hamas pour maintenir en quelque sorte l'inquiétude ou l'angoisse du côté israélien, mais qui n'en ferait rien à terme. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 50 ans, presque jour pour jour, c'était exactement ce qui s'était produit au début de la guerre de Kippour, parce que les Égyptiens, pendant des mois, s'étaient entraînés à franchir le canal de Suez, et crânement à l'époque, d'ailleurs avec la même morgue dont ont fait preuve les Israéliens en octobre, enfin dans les mois bien sûr, qui ont précédé le pogrom de 2023, de la même manière, ils ont considéré que, en réalité, les Arabes n'oseraient pas attaquer. Je dis bien les Arabes de manière générale, parce que il faut remonter encore plus loin dans l'analyse, je le dis d'un mot, il y a en Israël, depuis toujours, une espèce de méconnaissance volontaire ou de manque d'intérêt ou de manque d'appétence, en tout cas, pour ce qui concerne l'adversaire ou le partenaire arabe, quel qu'il soit. Et là, pour le coup, ça contribue aussi à expliquer cette catastrophe.
Oui, ils les ont sous-estimés. Il y a un autre point, peut-être, qui peut être reproché au général Aliva, qui est donc le chef du renseignement militaire israélien, c'est d'avoir sous-estimé la riposte iranienne au raid en Syrie.
Alors, je pense que là, pour le coup, on a affaire à quelque chose de moins grave. D'abord, parce qu'évidemment, les conséquences ont été infiniment moins graves. Voilà. Mais surtout, je pense que là, il s'agit moins d'un problème militaire que d'un problème résolument politique. Je veux dire par là qu'il est difficile pour le chef des renseignements militaires de savoir quelle décision politique, finalement, va prendre tel chef d'État situé par ailleurs beaucoup plus loin. Le Hamas, en principe, devait être espionné en permanence par les services de renseignement israéliens. Encore une fois, les territoires sont tout petits. Beaucoup de prisonniers du Hamas sont dans les prisons israéliennes. Il y a des informateurs israéliens. Bon, tout cela est beaucoup plus difficile en Iran. Donc moi, je pense que il a envisagé, je peux me tromper, mais je pense qu'il a envisagé de partir, oui, peut-être après l'affaire iranienne, mais qui finalement s'est plutôt soldé par quelque chose de positif, par une victoire finalement, au moment de, avant que la commission d'enquête se mette sur pied, et peut-être, je vais peut-être vous surprendre, peut-être aussi quelques heures avant la fête de Pessah, qui est extrêmement importante en Israël et au sein du peuple juif.
Voilà, c'est ce soir le début de la Pâque juive. On parlait de l'Iran, on le rappelle, c'est l'Iran qui a financé, qui a armé le Hamas pour l'attaque du 7 octobre. On en est où de la relation, si on peut dire, du rapport entre l'Iran et Israël? Est-ce que là, on en a fini de la montée en tension? Est-ce que c'est calmé ou est-ce qu'on peut imaginer que ça va recommencer?
Alors, à court terme, la crise est résorbée. C'est une crise, elle naît, elle se développe, elle connaît son acmé. L'acmé, ça a été la double attaque militaire de la semaine dernière. Et puis la crise, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, elle finit par se résorber. Là, c'est ce qui se passe très manifestement, puisque de part et d'autre, on a dit, on a employé les mots et la scénographie qui convient parfaitement à une résorption de la crise. Alors maintenant, moi, je vous réponds sur du court terme. Pourquoi ? Parce que les Israéliens ont mis le doigt sur quelque chose de très fondamental, qu'ils disent d'ailleurs depuis de très très nombreuses années, y compris dans les enceintes onusiennes, c'est qu'ils ne permettront pas à l'Iran d'avoir la bombe. Et il ne vous aura pas échappé que ce qui a été frappé, c'est une installation radar située à proximité d'installations nucléaires à Isfahan. Et donc pour Israël, il s'est agi de démontrer au monde entier, à ses amis ou ses alliés arabes, aux alliés occidentaux, mais surtout au régime iranien, que l'espace aérien iranien, finalement, est très vulnérable, contrairement à l'espace israélien. Donc pour l'instant, je vous dirais que oui, la crise est résorbée, mais à moyen ou moyen-long terme, si les Iraniens, ce dont je doute d'ailleurs, si le régime iranien décidait, coûte que coûte, d'aller jusqu'au bout de la tentative d'obtenir une bombe atomique, là, pour le coup, on aurait de nouveau une crise extrêmement aiguë.
Dernière question, Frédéric Ancel. On a parlé il n'y a pas si longtemps d'un accord sur la libération de quelques otages, peut-être une quarantaine d'otages, en échange de prisonniers palestiniens. Tout d'un coup, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de négociations vraiment en cours qui ont des chances d'aboutir pour libérer des otages?
il y a toujours des négociations, y compris en temps de guerre, et ça c'est un grand principe géopolitique de toute éternité. Maintenant, ces dernières semaines, le chef de la branche militaire du Hamas, Sinwar, a rejeté pratiquement toutes les propositions qui avaient été faites, y compris pas seulement d'ailleurs par les Israéliens, hein, par les Égyptiens, les Jordaniens, les Américains, les Qataris même. Et là, on a un raidissement de nature pratiquement suicidaire, hein, me semble-t-il. Sur le plan des rapports de force, le Hamas dans la bande de Gaza est au bord de la chute, de la chute, d'autant que les Israéliens ne sont pas prêts de partir pour l'instant. Et du côté de l'Iran, on a, me semble-t-il, fait l'erreur. Le Hamas, en tout cas, a fait l'erreur, me semble-t-il, de croire que l'Iran allait venir au secours du Hamas via son attaque contre Israël. Or, l'Iran n'a jamais fait autre chose que d'instrumentaliser la cause palestinienne. Et si l'Iran a attaqué Israël il y a quelques jours, c'était parce que un général iranien avait été abattu par Israël, certainement pas parce qu'il y avait eu un problème entre Israël et les Palestiniens.
Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir, c'est toujours un plaisir. Je rappelle votre dernier livre, Atlas géopolitique d'Israël, aux éditions Autrement.
Europe 1 Soir.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Excellente soirée. Place à la France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, quel est le programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Ce soir, nous partons faire le tour du monde avec le guide du routard. Et oui, l'invité de la France Bouge, c'est Philippe Gloagen, le fondateur et le directeur du guide du routard. Ça fait plus de 50 ans que ce guide existe. Il n'a pas pris une ride. Il est réactualisé chaque année avec des précieuses adresses, des conseils. Entreprise française avec près de 120 salariés. On en parle juste après le point sur l'info.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant.